Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver pour une émission exceptionnelle, si particulière ce matin en direct du Mans pour le Grand Prix de France, le Grand Prix MotoGP. Nous allons évidemment vous conter cette course. On est très heureux d'être avec vous. Prenez tranquillement votre petit déjeuner, on s'occupe de tout, on va vous divertir, on va vous apprendre des choses évidemment sur le sport. On va parler de la Ligue 1, de la moto, du rugby, bref, nous serons complet ce matin avec les grandes gueules du sport. On débutera avec Marseille, vous le savez officiellement, en Ligue des Champions la saison prochaine, tout comme Monaco. L'OM a-t-il réussi une grande saison? C'est la une des GG dans quelques instants. Événement hier, Fabio Quartararo a signé la pole position ici sur le Grand Prix du Mans. Lui qui n'a jamais gagné en France, peut-il vraiment le faire? On se posera la question. Il y a les pessimistes, il y a les optimistes. On verra les GG dans quel camp vous vous trouvez. Et puis 11h, c'est la dernière chance du Real Madrid cet après-midi à 16h15 lors du Classico, la dernière chance pour la Liga, la dernière chance pour gagner un titre cette saison. Pendant que Kylian Mbappé voit ses anciens coéquipiers du PSG s'éclater, lui ne lèvera peut-être aucun trophée cette année. Joue-t-il sa saison cet après-midi? On se posera la question, mais GG. À mes côtés, en direct du Mans, avec toutes les motos, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, salut les GG.
Bonjour, bonjour.
Salut.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous.
Vous êtes en forme, je m'adresse tout d'abord à Pascal, c'est la première fois que tu viens ici avec nous, c'est une sorte de dépucelage au Mans, comment ça se passe?
Oui, écoute, ça se passe très bien, plusieurs dépucelages, les pattes de Jean-Christophe hier, très bonnes, et aujourd'hui, on va assister à un Grand Prix magnifique avec, on l'espère tous, une victoire française.
Voilà, je sens le côté optimiste de Pascal Duprat, cocorico évidemment. Jérôme Pinault, tout va bien?
Écoute, ça va, je suis venu à pied depuis la Bretagne et ça va, tout va bien.
Ça fait une petite trotte, mais ça se fait bien finalement.
Ouais, Sarah a la foulée légère, mais ça va, je suis suivi.
Oui, c'est vrai que vous êtes venus ensemble, vous êtes dans le même coin de France. Hein.
Exactement.
Mais t'es quand même pas de la Baule c'est au-dessus, non?
C'est la haute, la Baule.
Eh oui, Sarah Pitkowski, tout va bien, ma Sarah?
Écoutez, messieurs, tout va bien, tout va bien. Je me suis arrêtée dans la campagne de Jérôme pour le prendre au passage, tu vois. Le
milieu rural,
milieu rural, absolument.
T'as pas l'habitude?
Non, j'ai pas l'habitude.
Elle est pas descendue de la voiture, elle a pas descendu de la voiture.
Je me suis un petit peu égarée, mais peut-être que l'année prochaine, on viendra en moto.
Exactement.
Très bien.
Je pilote.
Vous faites déjà des projections sur l'année prochaine, hein? Vous pensez vraiment? Christophe Cessieux, tout va bien, mon Christophe?
Ça va pas mal. On est bien ici.
On est habitué. Au mois de mai, on vient au Mans.
Oui, tous les ans au Mans. On vient au mois de juin aussi pour les 24 heures. Enfin, je veux dire,
on vient ici en vacances maintenant aussi.
On va au camping là, juste à côté de l'aérodrome.
Voilà. Exactement. Et en plus, quelle chance nous avons, Fabio Quartararo, on va en reparler dans quelques instants, qui va donc partir
qu'elle y soit un peu pour,
en pole position. Oui, oui. On parlera de Manon Fiorot aussi,
la
niçoise.
Là,
elle a perdu. Évidemment, c'était en MMA. On en reparlera aussi dans cette émission. Alors, c'est l'événement aussi sur RMC aujourd'hui, car nous avons un magnifique cadeau à vous faire gagner. Vous allez remporter vos places pour assister à la finale de la Champions Cup à Cardiff. On vous propose de vivre l'expérience RMC. C'est quoi l'expérience RMC? Je sais que les GG veulent me le dire. Personne ne me le dit.
L'expérience RMC, c'est de venir voir les journalistes et les consultants, c'est de vivre l'expérience de l'intérieur.
J'attendais Sarah, mais c'est quoi JC l'expérience RMC
ce matin?
Ah, c'est quoi le JC l'expérience RMC?
Merci Sarah. On vous propose le vol aller-retour Paris-Bristol. Transfert inclus évidemment, on s'occupe de tout. L'hôtel avec le petit déjeuner.
C'est Denis qui porte les bagages?
Évidemment. Qui parle aussi en français.
Oui.
Bien sûr, vos places pour assister à la finale UBB Northampton. Vous vous inscrivez dès maintenant en envoyant rugby au 732-16. Rugby au 732-16. Vos places UBB Northampton se gagnent uniquement sur RMC, donc bonne chance à tous. Sachez que le grand gagnant sera avec nous à 11h30 dans cette émission. Deux places pour cette finale magnifique entre l'UBB et Northampton. Avant de parler de l'Olympique de Marseille qualifié donc pour la Ligue des Champions la saison prochaine, on va faire un point avec Paul Lafitte, notre commentateur des sports méca et notamment de MotoGP. Salut Paul.
Salut JC, bonjour à tous.
Alors Paul, évidemment avec toi on a envie de voir et de parler de Fabio Quartararo. C'est vrai qu'il a réalisé un samedi magnifique. Il y a eu la course sprint qui s'est un peu moins passée, mais on retiendra surtout sa pole position. Aujourd'hui ce sera à 14h.
Oui, effectivement, j'y sais, la 18e pole position de sa carrière, déjà la deuxième consécutive, puisque le pilote Yamaha avait claqué le meilleur temps lors du Grand Prix de Jerez de la Frontera, c'était en Espagne. Et c'est vrai qu'il l'a dit hier après la séance de qualification: j'ai certainement fait le meilleur tour de ma carrière en qualification. ce qui vous pose un homme ici sur ce circuit Bugatti. Alors c'est vrai que tu le rappelais, j'y sais, la course ne s'est peut-être pas très très bien passée pour le Français qui était parti en position de pointe, qui a bien viré en tête pendant les 5 premiers tours avant de se faire avaler logiquement, j'ai envie de dire, par la puissance et le talent de Marc Marquez et de sa Ducati, également doublé par Alex Marquez qui était en position de pointe au classement général des pilotes. Il s'est fait également déposer à 5 tours de l'arrivée par le coéquipier d'Alex Marquez, Firmin Aldeguer. Donc derrière les 3 Ducati, eh bien la première Yamaha, celle de Fabio Quartararo. Alors peut-on espérer aujourd'hui une victoire française? Eh bien on espère évidemment, mais à la régulière, si sur des conditions sèches, on voit mal comment Fabio Quartararo pourrait s'imposer, peut-être un podium, j'y sais. Mais lorsque l'on voit le temps, il pleut actuellement au Mans. On peut peut-être penser à Juan Zarco, l'autre pilote tricolore, qui s'élancera 11e sur la grille de départ.
Je retiendrai, on voit mal comment Fabio Quartararo peut s'imposer. On se posera la question à 10h, peut-il vraiment le faire? Attention, il y aura débat avec les GG. Il y en a qui y croient, d'autres qui y croient moins. On sera également avec Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme. Et puis des invités, évidemment, dans cette émission, des guests qui sont venus voir ce Grand Prix de France, avec notamment Renaud Lavillenie, mais ça, ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Allez, on débute évidemment avec l'Olympique de Marseille.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Le but de l'Olympique de Marseille, le but de Yamine Gouiri, de l'homme en forme du côté de l'OM, seul face au gardien du Havre, son pied qui ne tremble pas. Légalisation à Vraise ici par l'intermédiaire du Satsumare.
Regardez-moi, corruption.
Match arrêté ici à Océane, monsieur Delageau, qui demande aux deux équipes de retourner au vestiaire.
Quel championnat des merdes. Tout corrompt.
Oh, la frappe à Brest qui passe juste à côté, Timothée Pemele.
Sur Vente, cet arbitrage.
Ah, un but de l'Olympique de Marseille. Quel but fantastique de Zainoud. Attention à la défense à Brest qui se trouve. Amine Gouiri, le but Olympia, cette fois c'est fait. Et l'Olympique de Marseille qui signe une victoire capitale, une victoire décisive. L'Olympique de Marseille qui s'impose sur le score de 3-1. Les Marseillais qui vont aller fêter cette qualification pour la Ligue des Champions avec le staff.
Vous pouvez dire, Pablo Longoria l'a dit, c'était tout orienté pour ces matchs. Tout orienté.
Le pauvre Pablo Longoria, même après une victoire, on se rappelle, on se remémore ce souvenir de serre. Finalement, ce n'est pas tant un championnat de merde que ça. Cette Ligue 1, 3 ans après, l'OM fait son grand retour en Ligue des Champions. C'est le principal enseignement de cette 33e journée de Ligue 1. Et c'était l'objectif des Marseillais, finir premier du championnat. Premier après le Paris Saint-Germain, évidemment, à une journée de la fin. Les Olympiens sont deuxièmes après, vous l'avez entendu, leur victoire au Havre. 3-1, contrat rempli. Donc, même si l'OM, et on en a souvent parlé dans cette émission, a vécu une fin de saison sous haute tension, la musique qui fout les jetons, et cette question, les GG. Est-ce une grande saison de l'Olympique de Marseille? Oui ou non? Jérôme Pinault?
Non.
Pascal Duprat?
Oui.
Sarah Pitkowski?
Je suis sur un petit nom.
Un petit nom.
Et peut-être un grand.
Ça va être un petit ou un grand. Christophe Cessieux?
C'est une saison réussie, pas une grande saison.
C'est pas une grande saison. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Valentin Jamin, qui était hier au Havre. Salut Valentin.
Salut les grandes gueules du sport, salut à toutes et à tous.
Alors les Marseillais ont-ils ressenti un ouf de soulagement?
Clairement oui, la preuve sur le dernier but, hein, les joueurs et tout le staff courent célébrer avec les 1000 supporters marseillais avant de fêter bruyamment cette qualification dans le vestiaire. Le président Pablo Longoria qui hurle sa rage dans les couloirs et trinque à la Ligue des Champions. Une grande joie qu'explique l'attaquant Neil Mopé.
Ça fait super plaisir, c'était pas évident, on a dû batailler jusqu'à la fin, mais je pense que sur l'ensemble de la saison, on a été deuxième tout le temps et c'est dans la logique des choses, malgré ce que les gens ont pu dire sur nous, sur notre état de forme. Je pense qu'on a été l'équipe la plus constante. C'est magnifique parce qu'on sait ce que ça représente pour le club et pour la ville de Marseille, pour les supporters.
Voilà, les joueurs ont le sourire. Amine Gouiri qui a atteint les 10 buts avec Marseille savoure.
Franchement, c'est de la fierté, du soulagement, tous les efforts fournis. Là, on est très content, on va bien savourer que c'est le rêve de tout le monde, surtout à Marseille, on est les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions. Jouer une compétition comme ça dans le stade Vélodrome, c'est quelque chose d'exceptionnel.
L'aboutissement d'une saison longue, irrégulière, l'OM a parfois trébuché, pesté contre l'arbitrage, vacillé sous la pression, a dû s'isoler en stage même. L'entraîneur Roberto De Zerbi utilise d'ailleurs des mots très forts.
On mérite cette deuxième place et on va tout faire le week-end prochain pour l'obtenir. Finir deuxième après la saison qu'on a eue, avec les polémiques, avec une équipe complètement remaniée, avec les problèmes rencontrés. Franchement, ce serait plus qu'un miracle.
di più che un miracolo.
Un sentiment partagé par le conseiller sportif Mehdi Benassia, longtemps suspendu et fier du résultat après avoir beaucoup dépensé pour renforcer l'équipe.
Aujourd'hui, je ne suis pas heureux, aujourd'hui je suis juste soulagé. C'est ça qui est malheureux, mais c'est comme ça. Je suis soulagé parce que c'est beaucoup de travail au quotidien de beaucoup de gens au club. Je suis content pour le staff, je suis content pour le coach qui a aussi beaucoup souffert parce que c'est quelqu'un qui est, comme vous le savez, très émotif, très passionné. Donc forcément, quand on n'a pas les résultats, bah, il souffre aussi le premier, donc je suis très content pour lui. Aujourd'hui, ça met fin un petit peu à toutes les polémiques. Ça va nous permettre d'essayer, on va dire, d'apporter un petit peu de stabilité aussi, de tranquillité, de pouvoir travailler peut-être plus sereinement.
L'OM va donc retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis presque 3 ans, mais tous aussi l'ont répété hier, il faut finir le travail en battant Rennes à domicile pour rester deuxième samedi prochain.
Merci beaucoup Valentin pour toutes ces précisions. Évidemment, supporters marseillais, on vous attend au 32-16. L'OM a-t-il réalisé une grande saison? Mehdi Benassia, vous l'avez entendu, les GG, qui dit « Je ne suis pas heureux ce soir, je suis juste soulagé ». C'est fou quand on est deuxième de Ligue 1. Pourquoi une grande saison, Pascal Duprat?
Mais parce que ta question est un brin provocatrice, donc ma réponse est un brin provocatrice également. Grande saison, non. Pour l'OM, deuxième, réaliser une grande saison, non. Cependant, c'est une très bonne saison. Parce que les Marseillais sont dans les objectifs. L'objectif avoué, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions. Parce que l'Olympique de Marseille, version Longoria, ne fait que changer d'entraîneur et d'équipe toutes les saisons. Donc le travail est délicat pour le coach. Je pense que De Zerbi a très bien réalisé cet amalgame avec ses nouveaux joueurs. Le recrutement était de qualité. On ne s'est pas souvent ennuyé en regardant jouer l'Olympique de Marseille cette saison. J'ajoute qu'ils ont gagné 10 matchs à l'extérieur, c'est pas neutre, davantage qu'à domicile, même s'il en reste un à jouer, 9 matchs gagnés à domicile. Et l'OM, quand on a un Paris Saint-Germain dans son championnat, forcément, on ne vise que la deuxième place. Pour l'instant, parce que si Marseille a un peu, le nez dans son recrutement, réussi à garder quelques joueurs comme Rabiot et d'autres, alors attention à l'Olympique de Marseille dans les années à venir.
Bah évidemment, on reparlera de la suite et on se projettera sur déjà la saison prochaine et cette Ligue des Champions. Mais déjà, est-ce que tu comprends que juste l'OM est soulagé hier soir et pas forcément fondamentalement heureux alors qu'ils ont couru après ça toute la saison, Jérôme Pinault?
C'est une certitude, ils doivent être soulagés parce qu'ils remplissent l'objectif. Et c'est surtout un soulagement de ne pas passer à côté. Ça aurait été catastrophique s'ils n'avaient pas gagné hier et s'ils n'avaient pas au moins atteint ce premier objectif-là. Mais pour dire une très grande saison à l'OM, Pascal ne me contredira pas. Quand on est l'OM, une grande saison, c'est qu'on fait un très beau parcours en championnat. Il y a aussi une Coupe d'Europe qu'on joue. Là, il n'y a pas eu de Coupe d'Europe cette année. Puis on va un peu plus loin que ça en Coupe de France. Là, il en manque. Et surtout, quand on est l'OM, on a envie de finir deuxième quand le Paris Saint-Germain est intouchable. On est au moins le dauphin du PSG. Il reste un match. Il reste un match contre Rennes et si ce match-là n'est pas gagné et qu'il y a un résultat positif de Monaco, tu peux ne pas faire deuxième.
Et ça, c'est un problème.
Et ça fait pas une très grande saison. Quand tu fais une très bonne saison, c'est déjà.
Mais deuxième ou troisième, c'est un problème.
Non, quand tu es compétiteur, quand tu es l'OM, finir deuxième derrière Paris, c'est toujours quelque chose de très spécial. Quand il y a l'OM juste derrière, c'est encore mieux. Là, il y a une telle différence entre les deux clubs. L'objectif, il est clair, c'était un objectif normal de faire la Ligue des Champions. C'est pas un exploit pour l'OM avec cet effectif-là.
Tellement normal.
Et quand tu finis 8e, la saison dernière.
C'est une catastrophe, là.
Oui, c'est une catastrophe. Mais la saison suivante, finir second avec un changement radical de l'effectif, moi, je pense que c'est un exploit. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une grande saison.
Ok, tu vas même sur l'exploit. T'es provocateur ce matin, Pascal.
Sur le plan comptable, oui, c'est une bonne saison puisque c'était les objectifs qui s'étaient fixés. Mais je pense que sur le plan du jeu et sur le plan du stress de la gouvernance, on a bien senti, avec les dérapages des uns et des autres et de la gouvernance, on a bien senti qu'en fait la Ligue des Champions c'était juste leur survie.
Ils n'avaient pas le choix.
Ils débordaient, ils ont pété les plombs, mais parce qu'en fait la Ligue des Champions c'était la seule et unique question de survie. Donc la deuxième place, oui, elle est importante. Moi, je pense que même pour rassurer et pour montrer que l'objet. On se souvient quand même de Zerbi qui nous sortait en octobre ou en novembre, en disant mais on a les capacités d'aller chercher le PSG. et on finit à Rome à allumer des cierges pour être sûr que la fin
avec
de saison
Léon. Avec mais à cette période de la saison, on n'était pas loin d'y croire parce que l'OM en début de saison performait.
Oui, en début de saison performait.
Première partie de saison. Ça n'a pas duré longtemps quand même, Pascal.
Ça n'a pas duré longtemps.
Dès le premier classique, malheureusement, on a compris qu'ils arrivaient.
Et qu'il y avait un écart.
Oui, mais cela dit, Christophe, l'Olympique de Marseille est resté longtemps second. Donc c'est juste mérité qu'il soit cette place.
Mais est-ce qu'ils sont second?
Les autres, quoi.
Voilà.
Oui, mais est-ce qu'ils sont second?
Est-ce que c'est une grande saison pour Marseille, ça, d'être premier des
autres? Il reste un match quand même. Je le rappelle, il reste un match.
Oui, en plus,
si Habib Bey peut aller.
Enfin, ça change rien maintenant, qu'il soit deuxième ou troisième.
Ils sont deuxième.
S'ils sont battus contre Rennes, ils ne seront plus premiers des autres.
Oui, ils seront deuxième des autres.
Oui, mais si on se parle aujourd'hui, on ne se projette pas sur le dernier match. Ils sont deuxième aujourd'hui, mais ils sont sauvés par les concurrents qui, eux, sont encore plus irréguliers. Pardon, ils sont encore plus irréguliers que Marseille.
Oui, mais Sarah, ça fait partie d'un championnat.
Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, ils sont deuxième, mais Monaco, tu pourrais te dire quand même, si on se pose la question, est-ce que Monaco a réussi sa saison, tu te dis quand même, ils ont quand même raté des sacrées occasions, Monaco.
Mais il n'y a pas forcément les mêmes attentes, et on reviendra sur cette crispation qu'on a pu sentir même hier soir du côté de
Marseille. Hier, il s'en est fallu un peu de choses pour que les gens qui ont pénétrer sur la pelouse et les dirigeants qui ont été suspendus il n'y a pas si longtemps pour avoir débordé un peu sur la pelouse. Hier, il a suffi d'un échauffouré, ils étaient de nouveau tous sur la pelouse et dans les couloirs. Hein.
Justement, Christophe, et quand tu vois l'Olympique de Marseille réagir, ne être surtout soulagé plutôt qu'heureux, alors que un retour de Marseille 3 ans après, c'est quand même un événement, mais on ne sent pas une explosion de bonheur.
Il n'y a pas d'euphorie totale,
c'est
enfanté dans la douleur. Quoi. Cette deuxième place, elle est enfantée dans la douleur. Ouais. Tu sens dans les déclarations. Il y en a un qui, Benassia, qui parle de soulagement, de Zerbi qui revient. Ouais, c'est un miracle. Après tous les problèmes, tout ce qu'on a mis entre.
Les mauvaises informations aussi dans la presse, il est revenu.
On nous a mis dans les roues, la presse qui a menti, l'arbitrage, tout ça revient, tu sais.
Mais tu mets pas ça
ressenti.
Sur le compte de Zerbi. Il a quand même été un peu perdu pendant la saison, ce coach. C'est-à-dire que, alors, il s'en est pris à ses joueurs, il a fait vous êtes les plus beaux, et puis après, il les a descendus, après, il s'en est pris il s'en est pris aux arbitres.
Sa manière de communiquer, ça.
Ouais, mais est-ce qu'il était. De ce que je lisais sur la patte de Dezerbi dans les clubs où il était avant, il y a plein d'anciens comme toi, Pascal, qui disent qu'ils n'ont pas retrouvé la patte de Dezerbi à l'OM. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas?
Parce que l'OM est un club spécial.
Un club tellement particulier. Dans ce club, tu n'as jamais de sérénité. Tu es toujours sur le fil. Tu as toujours
sur le qui-vive.
Sur le qui-vive. Tu as une pression telle de la ville. Tout le monde attend à ce que Marseille fasse des miracles. Marseille a titillé Paris, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Et chaque fois qu'il y a un mauvais résultat, tu sens toute la pression qui tombe. Et c'est vraiment un club pour devenir entraîneur, c'est un club. Je ne sais pas si tu aimerais un jour aller entraîner l'Olympique de Marseille.
Parce qu'on est nombreux dans ma tête. Donc à la limite, un plus. Bon, c'est pas voilà. Je voudrais ajouter une chose, c'est que je ne sais pas si vous avez senti cette corrélation. À partir du moment où il y a la sortie de Longoria sur les arbitres, les performances de l'OM sont moins bonnes. Mm-hmm. Parce que lui a mis la pression en fait à tout son club et toute son équipe, alors qu'il voulait simplement tenter
de trouver un bouclier
pour permettre.
Et c'est la nature qui reprend le dessus, c'est la nature humaine, c'est-à-dire que lui il a la pompe de l'investisseur, donc il la met sur le directeur sportif, qu'il la met sur l'entraîneur et qu'il la met sur les joueurs. C'est amener de la sérénité à l'Olympique de Marseille. C'est quasiment impossible.
Non, mais c'est un peu pieux, ça. C'est impossible.
Donc, c'est un peu multiplié par des centaines et des milliers de choses que de faire ça à l'OM quand tu sais que dans la société, c'est la même. Quand t'as pas de chiffres, on te met la pression, il faut que t'en aies. Ben là, c'est encore pire parce que eux, ils étaient suspendus à ça. Moi, le mot que je retiens le plus et qui m'étonne dans la communication de Zerbi, mais elle est tellement faite instinctivement, c'est miracle. C'est-à-dire que miracle,
sur la couverture à lui.
On n'y croit pas. On n'y croyait plus si c'est un miracle. Et au final, on a juste envie de lui dire, mais c'est normal. L'OM en Ligue des Champions, deuxième ou troisième, même si les anciens, je rappelle, JPP disait il n'y a pas longtemps, on est le rival historique du Paris Saint-Germain, on doit être deuxième. Pour l'Olympique de Marseille, c'est normal d'être en Ligue des Champions. Si tu penses que c'est un miracle, ça veut dire que tu n'as pas senti ce qui pouvait se passer dans ce club. Tu n'as pas sondé ce club.
On va reprendre cette discussion parce que l'idée du miracle, je sais que Pascal Duprat a une idée. Évidemment, en tant qu'entraîneur, il lit les entraîneurs. Quand on dit c'est un miracle,
ça veut dire,
on se brosse un peu dans le sens du poil.
Regardez ce que j'ai fait.
C'est quand même exceptionnel. Vous vous rendez compte tout ce qu'on nous a mis, tous les. les choses trappes que j'ai eues tout au long de la saison, mais on a réussi, oui, c'est un miracle.
Et ben justement, on continue d'en parler avec vous aussi, les auditeurs, les supporters marseillais au 32-16, venez de dire ce que vous en pensez. L'OM, ça y est, c'est officiel, est en Ligue des Champions de la saison prochaine, tout comme Monaco. Et puis on dira un mot aussi sur les prétendants, les concurrents qui ont chuté hier, Nice, oui. Lille, Addis, ou encore Strasbourg. Tiens, j'ai une Lilloise, j'ai un Niçois. Ouais. Ça tombe bien, on va en parler.
Ah, le samedi Niçois, il n'était pas bon.
Que heureusement qu'il y avait Quartaro. Non, mais on fait l'actualité quand même, je vous l'annonce. Hein.
C'est vrai.
Heureusement qu'il y avait les pâtes.
Allez. C'est pas les pâtes niçoises, ça.
9h28.
Pas les pâtes niçoises.
Ah non. Je vous ai fait des pâtes italiennes, les copains. 9h28, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport, ici en direct du Mans, avec la pole position de Fabio Quartararo. Ce sera tout à l'heure la course à 14h. A tout de suite.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
9h31, le Grand Prix MotoGP, le Grand Prix de France en direct du Mans. C'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons ce matin, les Grandes Gueules du Sport sur RMC, avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Jérôme Pinault. À partir de 10h justement, on vous parle de MotoGP avec nos invités, notamment Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme. Quartararo peut-il le faire? Ce sera notre question, lui qui vient d'obtenir la pole position. On est très heureux pour notre Français, on est très heureux justement d'être là. Peut-être une première victoire française dans la catégorie reine. Ici, au Mans, ce serait une première depuis 71 ans.
Ce qui est bien, c'est qu'on est tous des spécialistes.
Mais oui,
donc ce sera vraiment argumenter nos réponses.
Bravo en tout cas. Non, Sarah, je sais
en tout cas,
que tu as
bossé, hein, parce que
ardemment
moi, j'ai
travaillé
pour le coup. D'ailleurs, oui. Bon, je me suis transformé en chauffeur de Sarah et donc elle a bossé. Je
peux. Mais alors ça fait
chauffeur de masse.
C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant.
Un bolide.
Tu sais, si jamais tu cherches une reconversion, c'est peut-être celle-ci.
Quand tu as Sarah avec toi dans la voiture, la barrière de péage s'ouvre 1 km avant. Elle la reconnaît.
Ça c'est le système plus plus. Ça c'est quand t'habites la Baule, t'as le droit d'avoir ça. Alors restons un instant sur l'Olympique de Marseille. Évidemment, est-ce que l'OM a réussi une grande saison? L'OM qualifié officiellement pour la Ligue des Champions la saison prochaine, tout comme Monaco. On n'oublie pas les Monégasques dans cette affaire-là. Et Guillaume, supporter de l'OM, nous appelle au 32-16. Salut Guillaume.
Oui, bonjour. Bonjour à l'équipe. Soulagé, hein, parce que c'est l'objectif à minima quand on est l'Olympique de Marseille. Maintenant, après toutes les saisons qu'on a traversées, toutes les tempêtes, mais nous créons nous-mêmes des fois les tempêtes. C'est un soulagement, c'est aux récompenses le travail de Pablo Longoria qui a mis énormément de temps à faire un peu le ménage à l'Olympique de Marseille. L'arrivée de Mehdi Benatia nous a fait un plus grand bien, je pense. Moi, je tiens à féliciter le coach de Zerbi parce que quand il parle de miracle, aller en Ligue des Champions avec Ulysse Garcia, Konogbia, Cornelius, en gros la défense de l'Olympique de Marseille, ça peut être un exploit. J'espère que Mehdi Benatia va nous sortir du très lourd et voilà, après on peut pas concurrencer le PSG. D'ailleurs nous ça serait bien qu'on joue le PSG au mois de mai quand ils sont qualifiés, comme ça on aurait une chance.
Il y aura peut-être 3 points dans la poche supplémentaire.
Là t'as le droit d'oublier, parce que si, même si c'est au mois de mai, ils vont pas jouer les minots là, ils vont pas faire jouer les titis là.
On le sait bien, mais en tout cas moi je suis super heureux, je suis satisfait de ce qu'a pu me faire Roberto, en espérant maintenant avoir il faut du renfort, on le sait très bien, on n'est pas naïf, il faut au moins 5 renforts, donc 3 en défense, il faut au moins un milieu, il faut un attaquant. Je suis très content parce que j'étais partisan de l'arrivée d'Amine Gouiri, s'il décide
tu
de
téléphones
jouer,
à Mehdi.
Et du coup voilà, il nous a fait signer une masterclass qu'Adrien Rabiot, donc voilà, maintenant je sais pas, j'ai pas encore vu une rumeur, donc je vais lancer une rumeur sur RMC, Griezmann serait dans l'avion.
Alors là c'est une vraie rumeur, évidemment.
Si Mehdi m'entend,
très bon défenseur.
Sache Guillaume que Mehdi Benatia nous écoute régulièrement, donc s'il nous écoute, il peut nous appeler au 32-16.
Tu lui as soumis une idée.
Et pourquoi pas Antoine Griezmann latéral, après Paul Pogba, c'est vrai que l'espoir fait vivre, et pourquoi pas. Je voudrais revenir juste un instant sur les propos de Roberto De Zerbi en conférence de presse, où il a parlé de miracle, cette qualification pour la Ligue des Champions. Il dit également, parce qu'il revient sur les épisodes passés, ça j'ai trouvé ça un peu étrange, c'est-à-dire que là on est dans une soirée d'euphorie, on n'a pas besoin de se rappeler aux mauvais souvenirs. Et il dit, c'est pas vrai que les joueurs étaient contre moi, ça m'a fait du mal, il n'y a jamais eu de mutinerie, il n'y a jamais eu de problème. C'était important, Pascal, qu'ils reviennent là-dessus ou pas?
Il faut croire que ce qui a été dit, notamment qu'il y avait quelques joueurs qui se plaignaient, ça l'a touché. Voilà, bon, c'est pas un lapin de 6 semaines, non. Donc voilà, tous les entraîneurs du monde sont victimes de rumeurs plus ou moins fondées. Faut vivre avec.
Moi, ce qui me marque, c'est le contraste, parce qu'on a vu cette semaine finalement deux aboutissements. D'un côté, tu vois le PSG qui se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, donc la joie, et l'Olympique de Marseille qui atteint aussi son objectif, c'est-à-dire se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais tu vois, l'attitude des entraîneurs est complètement différente, alors que Luis Enrique aussi, en début de saison, était quand même considéré comme voilà un mec qui avait du mal avec la presse et tout. Là, tu l'as trouvé dans une euphorie totale où il a oublié tous les soucis, tous les problèmes qu'il a pu rencontrer en début de saison, et c'est vraiment un mec transformé. Et De Zerbi qui revient sur les problèmes.
Ouais, mais vous avez vu...
ça devrait quand même être un exutoire.
Oui,
vous avez vu l'attitude de Zerbi sur le troisième but. Il était heureux.
Là, on a l'impression.
Il était dans les.
Oui, t'as raison, mais derrière, en conférence
de presse. En conférence de presse, mais sur le terrain, on sent les joueurs. Je suis pas d'accord avec vous. Je pense que la joie n'était pas contenue. Des joueurs, du staff.
Alors, c'est une erreur de com. Alors, c'est une erreur de com derrière.
En fait, il a voulu communiquer sur. Sur ouais, les on encore miracle, une fois ce qu'on leur
met, ils sont pas dans le même cycle, c'est-à-dire que il y a eu un partout à Lille, c'est déjà un point, enfin c'est aller arracher le point qu'il fallait. Ils sont juste la tête hors de l'eau, Marseille, pour garder leur deuxième place, alors que le PSG est quand même sur une pente ascendante. Ils sont au sommet de leur forme, donc ils sont pas dans les deux entraîneurs,
c'est pas les mêmes hommes, la même l'émotion était la même
dans
sur
le même
terrain.
Cycle à ce moment-là,
dans le recul. C'est un aboutissement pour l'un, l'autre le prend tout de suite sentimentalement, veut contrer et part dans tous les sens. Mais sur le terrain, la joie est la même. On sent que ce sont deux gars qui atteignent leur objectif, ce qu'ils avaient plus ou moins annoncé. Et ça, ça les rend encore plus sereins. La sérénité, ils la perdent en conférence de presse après, ça c'est sûr.
Mais en fait, De Zerbi, comme tous les dirigeants marseillais, ont l'impression d'un complot depuis deux mois. Donc ils sont toujours en boucle sur ce complot.
Même en étant deuxième, tu penses qu'ils sont allés arracher leur deuxième place, mais que tout le foot français les mette des bâtons dans les roues.
Leur deuxième place, elle est juste méritée. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Ils ont le plus grand nombre de victoires après Paris. C'est juste mérité et ils sont bon sur l'ensemble de la saison.
Alors après ce ouf de soulagement, on l'aura compris évidemment, il faut se reposer, se remettre la tête à l'endroit, réfléchir. On connaît Pablo Longoria, il adore cette période de mercato, réfléchir à son ossature, à son équipe la saison prochaine. Mais justement, tu parlais tout à l'heure, Pascal, d'instabilité chronique. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que cette intersaison te fait peur pour l'OM?
Écoute, moi je suis très interrogatif, donc je trépigne d'impatience de savoir si De Zerbi va rester déjà.
mais ça dépend de qui, évidemment.
C'est l'OM, c'est Longoria.
D'accord, mais ça dépendrait de qui? De Zerbi ou de Longoria?
Je sais pas, mais déjà une première bonne nouvelle serait qu'il reste. Attendons cette confirmation. Il est sous contrat, certes, mais on sait que les contrats, ça veut rien dire. Donc attention. Et puis ensuite, franchement, quand vous avez eu ce nez. De faire venir Rabiot par exemple, j'espère qu'il va rester à l'OM parce qu'il est...
Il était tellement attaché à la Ligue des Champions qu'on le voit mal partir maintenant qu'il a la Ligue des Champions.
Je pense, j'espère. Donc déjà, c'est conserver les joueurs qui ont performé. Le gardien Greenwood, pour ne citer que Goury, qui a fait depuis janvier des miracles. Il a marqué, je crois, 9 buts. Ceci avec la finesse, parce qu'on ne doit pas lui enlever, du recrutement de Longoria, parce qu'il a quand même...
Et le réseau de Benatia.
Il a le nez creux. Pour faire en sorte que Marseille existe en Ligue des Champions.
Parce que l'OM doit exister en Ligue des Champions, Christophe. Il faut exister maintenant. Alors on rappelle que c'est évidemment la nouvelle formule. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile? On a l'impression que pour nos clubs français, en tout cas sur la première saison, c'était aussi plus facile d'être dans les 24, parce que c'est l'objectif. Il faut être dans les 24 premiers pour entrevoir les 16e de finale de la Ligue des Champions. Ça paraît jouable, mais c'est vrai qu'on va guetter cette stabilité, Christophe, parce que forcément, l'OM, parfois, nous a habitués à des dingueries. Et on rappelle que là, il y a un ouf de soulagement, mais ils n'ont pas joué beaucoup de matchs cette saison. Ils ont joué la Ligue 1 seulement. L'année prochaine, c'est pas la même chose.
Évidemment. Et puis là aussi, l'OM sera très attendu. Ils n'ont pas le droit de faire comme ils ont fait lors des dernières campagnes en Ligue des Champions. On se souvient d'une année où ils avaient perdu quasiment tous leurs matchs. Tous leurs matchs, justement.
Il y a eu la bulle, hein, 0 points.
Il y a eu la bulle. Donc là, on ne veut plus de ça à Marseille. Parce que c'est très beau de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, pour beaucoup de clubs français, c'est surtout un enjeu économique. C'est-à-dire, tu la manne, évidemment, il n'y a plus de sous dans les droits télé du championnat domestique. Donc il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais à Marseille, t'as pas le droit juste de te qualifier. Il faut aussi exister dans cette Ligue des Champions. Et je pense que la première chose à faire pour Marseille, c'est de renforcer cette défense. Tu parlais de l'attaque tout à l'heure, Pascal. C'est vrai que cette attaque a flambé, mais la défense marseillaise, c'est pas ça du tout. Là. Et c'est pas avec une défense comme ça que tu vas exister en Ligue des Champions.
Il faut vraiment
trouver des défenseurs et même le gardien qui a été bon au cours de la saison. Il a quand même des moments de flottement quand même.
Ça manque de profondeur, surtout sur un effectif qui va jouer,
c'est logique,
qui va jouer 10 à 12 matchs de plus l'an prochain si ça se passe bien.
C'est quand même 9 défaites en championnat.
Ça fait que le banc, la profondeur de banc doit être améliorée. Ce qu'on espère, c'est de la sérénité et du calme pour pouvoir fixer et verrouiller les cadres, de la continuité, Pascal, et renforcer dans certains secteurs, notamment le secteur défensif. Sinon, tu peux effectivement refaire une séance de Champions League. Alors, ça durera un peu plus longtemps parce qu'il y a plus de matchs dans la première phase.
Mais ça donne plus de chances de progresser aussi quand t'as autant de matchs en Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est plus un match couperet aller-retour finalement. Donc, ça te laisse de temps de t'installer. Enfin,
et pour ça,
il y a moins besoin de converger la semaine.
On constate aujourd'hui quand même où en est le LOSC. C'est bien d'avoir un peu de profondeur et de bien gérer l'effectif parce qu'à la fin, ils sont carbo quand même.
Ouais, mais t'as vu que le nombre de matchs qu'ils ont disputés, ils ont disputé 14 ou 15 matchs de plus que l'Olympique de Marseille, par exemple.
Comme en jouant la phase normale, tu fais que 4 matchs de moins que l'OL cette année, le LOSC cette année. Ils ont joué qualificatif et après, de derrière, c'est la saison normale. Hein.
Bon, évidemment, on aura le temps de reparler de l'Olympique de Marseille qui a encore un match à jouer. Hein. C'est-à-dire que l'OM peut encore terminer 3e, mais peut aussi, évidemment, être en bonne position pour terminer 2e. Ils reçoivent Rennes. Voilà pour ce match.
Heureusement qu'ils ont gagné au Havre. Hein. La pression qu'il y aurait eu au Vélodrome.
Et puis à Big Bay, ancien Marseillais, ce sera un plaisir d'aller chatouiller les Marseillais chez eux.
Et justement, l'OM doit aussi cette place parce que les autres ont trébuché. On en parle dans quelques instants dans le zapping des GG. On s'en fout pas. Lille, il y a eu Nice, Strasbourg et aussi Lyon. Lyon qui va peut-être pas disputer de coupe européenne la saison prochaine. On parlait de Ligue des Champions, mais c'est peut-être même pas de coupe d'Europe. On se retrouve dans quelques instants. On s'en fout pas. Avec plein d'informations à vous donner. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
9h46, de retour dans les grandes gueules du sport. Oui, en direct du Mans pour le Grand Prix de France, le Grand Prix MotoGP cet après-midi. C'est à 14h, la pole position de notre Français Fabio Quartararo. On en parle justement à partir de 10h. Peut-il le faire? Peut-il gagner? Là où tous les Français dans la catégorie Rennes se sont cassés les dents. La dernière victoire, c'était il y a 71 ans. Rendez-vous compte, on en parle à partir de 10h. Toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Jérôme Pinault. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, évidemment des dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. On a parlé, la première information de l'OM et de Monaco en Ligue des Champions. Ça veut dire aussi que les prétendants, que les concurrents ont craqué. On s'en fout pas, Jérôme Pinault.
On s'en fout pas.
Ok, Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Christophe Cessieux.
Ouais, on s'en fout pas du tout.
Toi, Sarah, on ne s'en fout pas. On va commencer avec Lyon qui a affronté Monaco. Lyon a une nouvelle fois perdu, deuxième défaite de suite, 2-0 sur la pelouse des Monégasques. Lyon reste scotché à la 7e place pour l'instant, qui n'est pas qualificative pour la Coupe d'Europe. Il faudra que le Paris Saint-Germain s'impose en finale de la Coupe de France dans 2 semaines face à Reims. Lyon est 7e avec 54 points. Tous les autres ont 57 points. Donc on peut imaginer évidemment que Lyon ne pourra pas rattraper Strasbourg, Lille ou Nice. Je vous propose d'écouter Alexandre Lacazette hier après le match.
Beaucoup de regrets, d'énervement, de déception. On se sent désolé pour tous les supporters qui croyaient en nous sur toute la saison, mais même ce soir où je pense dans le match on était bien, on a encore fait des erreurs. Ça fait mal, on avait le moyen d'eux et on s'est tué nous-mêmes, donc c'est ça qui fait mal ce soir.
C'est fou, on s'attendait à une grande saison de l'Olympique Lyonnais. Et là, depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'on remet en cause ce qu'a fait John Textor durant la saison, c'est remplacer Pierre Sage. Pascal, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est le principal problème de Lyon cette saison? D'avoir comme ça changé une nouvelle fois son entraîneur?
Pas que, mais ça participe au fait que l'Olympique Lyonnais n'a pas réalisé la saison que tout le monde espérait. En fait, au foot, il faut de la sérénité, du haut jusqu'aux joueurs, jusqu'aux soigneurs, jusqu'aux kinés. Et à Lyon, il n'y a pas de sérénité parce qu'il y a un coup près. Et ce coup près, c'est peut-être la rétrogradation. Parce que financièrement, tout n'est pas clair.
Tout n'est pas clair, évidemment, on suivra ce dossier hein, devant la DNCG. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un mot sur Lyon ou pas? Les Lyonnais 7e, on passe à autre chose.
Ça a basculé après Manchester aussi. Hein. Il y a l'avant et l'après. Il y avait une bonne dynamique avant Manchester. Et cette élimination avec ce match fou, ça les a plombés.
Ouais, les a plombés.
Et c'est sûr, et je rejoins Pascal et la vie générale. Si c'est pour faire 7e, je pense que Pierre Sage pouvait largement le faire.
Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que peut-être que si Lyon ne se qualifie pas pour une Coupe d'Europe, ils ne seront pas exclus des Coupes européennes. C'est peut-être une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais de ne pas être exclus parce qu'ils n'y sont pas.
Ouais, c'est un mot d'esprit, c'est les copains. C'est quand même inquiétant pour un club iconique
grand
de notre
supporter lyonnais.
Alors, je voudrais aussi dire un mot sur Lille, en présence de Sarah, et puis sur Nice. Alors, Lille qui s'est inclinée.
En fait, du local, quoi. On parle du FC Nantes un peu ou pas?
Non, surtout pas. Nantes n'est pas sauvé, mais tu pourras en dire un mot, évidemment. Lille qui s'est inclinée sur la pelouse de Brest, 2-0. Brest qui ne jouait plus rien. Lille est 5e avec 57 points. Et la grande bataille est lancée maintenant entre Nice, Lille et Strasbourg. Tous les trois ont 57 points. Il reste un ticket à aller chercher en Ligue des Champions, il faudra passer par un tour préliminaire, mais c'est donc la 4e place. Écoutez Bruno Genesio qui était furieux hier.
Il n'y a pas le contenu et pas le résultat. On a vu une première mi-temps indigne d'une équipe qui joue pour se qualifier en Champions League. Et ensuite, lorsque vous êtes mené au score 1-0 et à fortiori 2-0, c'est beaucoup plus difficile. Pour l'instant, je n'ai pas d'explication. J'aurai une bonne discussion avec mon groupe cette semaine.
C'est indigne?
Je sais pas si c'est indigne, mais je pense qu'il faut aussi prendre en considération la saison de Lille qui va être à 50 matchs. Quel club joue à 50 matchs avec finalement un effectif qui peut tenir peut-être sur un championnat et une Coupe de France, mais joue, enfin, en tout cas, cette nouvelle formule de Ligue des Champions va forcément faire du mal à des clubs qui ne peuvent pas avoir une grosse réserve derrière. Donc, indigne, je sais pas, mais, enfin, un peu d'indulgence, quoi.
Ok, un peu d'indulgence.
Moi, je vais juste ajouter une toute petite chose. C'est quelque chose qui est récurrent. C'est-à-dire que hier, à Lille, il manque deux joueurs très importants. Quasiment le socle au milieu de terrain avec Diarra et André. Comme par hasard, ils ne sont pas là et il n'y a pas de résultat. Et je trouve qu'on nommait trop souvent, pour avoir joué au football chez les jeunes, quand tu n'as pas tes meilleurs joueurs sur le terrain, c'est quand même plus difficile à gagner.
Et puis on n'oublie pas Zegrova qui est blessé depuis pas mal de temps et qui faisait beaucoup de bien à cette équipe.
Et ça pèse sur un effectif.
Je vais vous donner évidemment le calendrier de cette dernière journée de Ligue 1 qui concerne ces trois équipes qui peuvent se qualifier. Christophe, un mot juste sur les Niçois. Est-ce que tu es déçu ce matin? Eux qui ont perdu sur la pelouse de Rennes et qui pouvaient effectuer un grand coup. Hein,
bien sûr.
En cas de nul, ils avaient leur destin en main.
Bien sûr que tu es déçu parce que franchement, vu les résultats des autres, tu te dis que tu aurais pu battre Rennes. Mais Nice, je suis habitué aux déceptions depuis le début de la saison. Il rate tous les rendez-vous qu'il ne faut pas rater depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, Francaise le disait ce matin, on est en construction, on n'est pas une équipe ultra dominante faite pour jouer le titre, très haut niveau, on n'est pas forcément préparé à ça.
Il y a un propriétaire qui ne s'intéresse pas au club.
Avec ça, entre le propriétaire qui dit « moi, j'aime pas avoir joué cette équipe », l'entraîneur qui dit ça, et les joueurs qui, franchement...
Oui, la dynamique n'est pas incroyable.
La dynamique n'est pas
pourtant,
terrible.
Et pourtant, cette année, le GC Nice a fait que le championnat, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe cette année.
Alors évidemment, on ne s'en souvient plus, mais ils en avaient une, hein, évidemment.
C'est décevant parce que. Mais bon, c'est à l'image de ce championnat, quoi. On parlait de l'OM qui termine deuxième, mais ça n'a pas été une saison extraordinaire. Lille qui se rate, Nice qui se rate, Strasbourg qui se rate. Alors, ça a été l'équipe euphorique ces derniers temps. Lyon qui se rate, mais qui réussit en fait finalement? Monaco qui a battu Lyon hier, ouais.
PSG.
Et le PSG, évidemment. Je vous donne Nice qui recevra Brest pour le compte de la dernière journée. La différence de but, Nice est la mieux placée pour l'instant pour terminer quatrième. Ensuite, il y a Lille qui recevra Reims. Reims qui ne joue plus rien et qui jouera une semaine après la finale de la Coupe de France. Et puis Strasbourg qui affrontera Le Havre. Et pour le coup, à domicile là encore, mais pour le coup, là, Le Havre joue quelque chose pour cette dernière journée de Ligue 1. Allez, une deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est le retour facile de Yannick Sinner hier. On en parlait dans cette émission. On s'en fout pas. Jérôme Pinault.
Je m'en fous.
Sora Pitkowski.
Je m'en fous pas, mais c'était pas si facile que ça.
Ok, Pascal.
Je m'en fous pas, mais c'est pas indécent.
C'était débat d'hier, évidemment. Bravo, Pascal. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Alors, pour son retour à la compétition, l'Italien, habillé en noir, hein, hier, n'a jamais vraiment été inquiété. À Rome, le numéro 1 mondial a remporté son premier match depuis la fin de sa suspension de 3 mois pour dopage. Il s'est imposé face à l'Argentin Navone, 99e joueur mondial, en 2-7, 6-3, 6-4. On retrouve Eric Salio en direct de Rome. Salut Eric.
Bonjour à tous.
Salut Eric.
Sarah disait, ça n'a pas été aussi facile que ça.
Oui, disons, bon, il a jamais été en danger, mais il a eu des petits temps faibles. Sarah l'a observé avec justesse. C'est vrai que bon, il n'avait pas joué depuis la finale de l'Open d'Australie, donc il fallait qu'il retrouve ses sensations, ses repères. Mais l'essentiel est là. Il a absolument rien perdu. Et je trouve même qu'il s'est renforcé musculairement en bas au niveau du bas du corps, au niveau des cuisses. Donc c'est très prometteur. Donc lui, il était en tout cas très touché surtout par l'accueil que lui a réservé le public à son entrée sur le court. Écoutez-le.
Ça fait chaud au cœur. Oui.
That means much more than anything.
Franchement, l'accueil, il est presque aussi important que le résultat. Depuis mon arrivée ici lundi, ça a été un sentiment incroyable. Tous mes entraînements se sont déroulés parfaitement. Mais je ne suis pas le seul à être soutenu. Il y a Musetti qui est entré dans le top 10. Il y a aussi Matteo Berrettini qui est romain. La période que vit le tennis italien est assez dingue.
It's amazing the Italian tennis what we have right now.
Alors, il rejouera lundi. Alors, on pensait qu'il jouerait Davidovich Fokina, mais l'Espagnol, qui était un peu souffrant, est passé à côté de son match. Donc, il affrontera un lucky loser néerlandais, Jesper De Jong. Donc, ce sera un deuxième tour tout à fait dans ses cordes. Et maintenant, on se prend à rêver. Hein, mais si on a dans une semaine une finale Alcaraz-Sinner, ce sera évidemment bingo. Et ce sera la folie au Foro Italico.
Exactement. Un petit mot juste sur Arthur Fils, hein, qui va jouer à 11h. On attend beaucoup du français. Ça va être un choc. C'est face à Tsitsipas. Et tu seras avec nous dans cette émission.
Oui, là, je vais filer directement au Foro Italico. C'est un match qui est important pour Arthur parce que il n'avait pas été bon à Madrid, mais son premier tour était très convaincant. Il n'a jamais perdu contre Tsitsipas.
Le grec, c'est pas
n'importe qui. Le mec a déjà fait finale à Roland. Donc c'est un match qui est passionnant, je vais me mettre en tribune et puis je vais vous narrer tout ça.
Eh ben, on attend ça avec plaisir. C'est à partir de 11h. Un petit mot sur Yannick Sinner, sur son retour. Bon, c'était attendu. Il gagne et il a montré de belles choses, même si on n'avait pas trop de doutes quand même.
Oui, c'était important de le voir jouer, de le revoir retrouver certains coups. Moi, il y a encore des petits réglages à faire. Et quand tu manques de compétition, ce qui est difficile à régler, la mire, c'est comment jouer les points importants quand t'as une balle de break ou t'as une balle de débreak. Mais il a été juste ce qu'il fallait et puis il est quand même joueur invaincu depuis le début de la saison hein, puisqu'on l'avait pas vu depuis l'Open d'Australie même s'il y en a beaucoup qui critiquent Sinner en disant que c'est un joueur qui exprime peu de choses, moi je pense que c'est un champion qui est en train de grandir et j'ai hâte de le voir prendre vraiment le costume de numéro 1 mondial.
Ok, sache que moi aussi je suis invaincu depuis le début de la saison sur le circuit ATP hein, parce que j'ai pas joué, donc forcément quand on a pas joué 3 mois.
Ouais, mais lui, il a joué.
Oui, il a joué, mais il a joué en janvier. Quoi.
Bah, il a joué en janvier, il a gagné un match.
Voilà. Sarah, on reparlera d'Yannick Sinner, d'Arthur Fils à partir de 11h. Évidemment, on parlera aussi de Fiona Ferro, qui aurait pu marquer l'histoire du MMA. Malheureusement, la combattante française, la niçoise, a perdu cette nuit. C'était sur RMC Sport 1. Et puis, on vous parlera du top 14 avec le Stade Toulousain qui a roulé sur le RCT ou encore le Stade français en grand, grand danger après sa défaite à Perpignan. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de ce Grand Prix de France. Évidemment, les grandes gueules du sport délocalisées ce matin au Mans avec la pole position pour Fabio Quartararo. C'est simple, mais GG. Peut-il le faire ? On se pose la question dans quelques instants. Nous serons avec le président de la Fédération Française de Motocyclisme, Sébastien Poirier. À tout de suite sur RMC.
Vibrez Moto. Rejoignez la Fédération Française de Motocyclisme. Partagez des moments exceptionnels. Vivez des sensations incomparables. Et offrez-vous un vent de liberté sur nos circuits.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mans.